Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi, comme tous les quatrièmes vendredis du mois, animée par l'équipe de la Fondation Copernic, au complet ce soir avec Didier Gello, Mathieu Maury et Emmanuel Rengouat, ainsi que Claude à la technique. Notre thème ce soir, quelle politique économique de gauche, à partir d'une note de la Fondation, avec deux invités, Guillaume Etierin, économiste expert auprès des comités d'entreprise, et Jérémy Forny, qui est auteur d'un documentaire « Après la gauche », production Phare et Balise et Cheval de Troie Crossroads 2010. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur le site de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org, ou sur le site de Mode d'emploi. C'est donc parti pour l'émission de ce soir, quelle politique économique de gauche ?
On a un petit souci là, on est en train d'essayer de prendre contact avec notre invité
Jérémy Forny.
Bonjour, est-ce que tu es avec nous ?
Oui.
Ah, bonjour, voilà, on s'entend. Bien, bah, écoute, merci d'être avec nous ce soir donc pour nous présenter ton documentaire. Je vais passer la parole à Mathieu qui a travailler sur ton documentaire et qui va pouvoir t'interroger un petit peu sur le travail que tu as réalisé et le lien qu'on a aujourd'hui donc dans cette émission avec puisque aujourd'hui l'émission porte sur quelle politique économique de gauche. On a pensé que le travail que tu avais réalisé pouvait tout à fait résonner dans ce sens et voilà un petit peu pourquoi on t'a invité.
Voilà, on va passer quelques extraits du film, mais avant tout, est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte de la création, pourquoi créer ce film, qu'est-ce qui t'a amené à...
Je viens d'assez loin, en fait, étant de la génération de Mitterrand, je me suis retrouvé avec deux amis journalistes, Geoffroy Fouquier et Gaël Bizien, à m'interroger sur le sentiment qui était le nôtre de... Après la victoire de Chirac et ensuite la victoire de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il nous restait des 20 années qu'on avait passées sous le mitterrandisme, qu'est-ce que voulait dire être de gauche aujourd'hui et en s'interrogeant et en essayant de comprendre comment on en était arrivé là à 15 ans de gouvernement de droite, on s'est dit que les personnes les mieux placées pour nous répondre étaient ceux qu'on avait vus, ceux qu'on avait écoutés, ceux qu'on avait regardés, ceux qu'on avait admirés et qui avaient construit en somme ce que nous étions ou notre, en tout cas, aidé à construire notre identité politique. Et dans ce contexte-là, on s'est dit que, avec les moyens de notre époque, le plus intéressant était de travailler sur le médium cinéma audiovisuel. Et de fait, on est parti bien en tête en se disant on va s'interroger sur une question qui est très large, qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui ? Et on a réuni autour de cette question un certain nombre de protagonistes, des gens comme Jean Ziegler, Albert Jacquard, François Houtard, Tony Negri, Suzanne Georges, Jean Ziegler, je l'ai déjà dit, Bernard Stiegler, Christophe Aguiton, Robert Castel, enfin bref, tous ceux qu'on avait lus et qu'on avait écoutés pendant nos années de formation universitaire.
Justement, qu'est-ce qui a présidé au choix des intervenants ? Est-ce que vous avez eu tous les intervenants que vous souhaitiez ?
Qui était celle de se dire, on va interroger les pères ou les grands-pères, puisqu'on se plaçait dans une logique de transmission des vidéos. Et on a fait ce choix en disant, on interroge des gens qui peuvent être soit nos pères, soit nos grands-pères, et puisque on se rendait compte que eux avaient plus rien à faire dans le jeu traditionnel partisan des élections et qui pourraient nous apporter sans doute une réponse tranchée et claire sur ces 20 années qui nous séparaient de la chute du mur de Berlin, puisque le film a été tourné en 2009 et il s'interroge sur ces 20 années qui nous séparent de la chute du mur de Berlin, du massacre de la place Tiananmen et du bicentenaire de la Révolution, qui sont trois piliers de l'organisation du film.
D'accord, on va écouter un premier extrait justement sur une des principales évolutions, surtout dans les années 90, autour de ce qu'on a appelé la pensée unique, la domination de l'idéologie néolibérale.
De force est en ma faveur. On peut dire que le monde des années 90 est celui de la pensée unique. Pour employer une expression française, bon, au niveau international, on utilisait TINA, c'est la There's No Alternative, ou l'idée du Washington Consensus, le consensus de Washington, l'idée en gros qu'il n'y avait qu'une politique possible, quoi. C'est la même chose, hein. Pensée unique, There's No Alternative ou consensus de Washington, c'est la même façon de voir un monde dans lequel il n'y a qu'une solution pour régler les choses, c'est le néolibéralisme.
De plus en plus d'intellectuels, hein, entre guillemets, sont passés du côté de l'idéologie de la transparence. De l'idéologie de la transparence. C'est-à-dire que finalement, ils ont adopté le mythe de, le mythe du néolibéralisme qui a présenté la globalisation néolibérale comme l'horizon indépassable.
Les néolibéraux ont se sont concentrés sur la diffusion des idées à travers les universités, les médias, absolument tous les instruments et tous les endroits où les idées sont créées et disséminées. Et ils ont été victorieux parce que c'est cela qui a donné lieu à Reagan, à Thatcher, à toutes les droites du monde qui ont compris que les idées ont des conséquences. Et
c'était Suzanne George à la fin.
Effectivement. On peut peut-être demander à Guillaume Etiévant, qui est avec nous, hein, à Paris ici, un petit peu de réagir sur cette ce premier passage autour de la question de, finalement, la place et l'importance qu'a pris la pensée néolibérale. Alors, c'est vrai que Guillaume est économiste, mais c'est bien aussi dans le domaine économique que la pensée néolibérale s'est imposée. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que la note de la Fondation Copernic que l'on commente aujourd'hui avec ce reportage, hein, adossé à ce reportage, a été mise en place, je crois. C'est peut-être une première question qu'on peut poser, c'est quelle est un peu l'origine de cette note, et est-ce que quelque part aussi, évidemment, la force du néolibéralisme en matière économique a été un des points de départ de cette note?
Oui, ça a été un point de départ puisqu'on a pu encore le voir cette fois dans la campagne électorale de cette année, que les idées néolibérales, elles sont complètement dominantes médiatiquement, et puis elles sont dominantes dans un grand nombre de sphères intellectuelles. Et donc on se rend compte que les citoyens ont beaucoup de difficultés pour pouvoir accéder à autre chose que la pensée néolibérale, puisque la pensée unique, dont on entendait parler à juste titre dans l'extrait tout à l'heure, cette pensée unique néolibérale, elle s'est développée avec une telle force qu'aujourd'hui, on n'a quasiment rien à entendre contre ça dans les médias. Et quand on voit un grand nombre de think tanks comme Terra Nova, etc., qui tiennent des positions qui sont des positions néolibérales, de A à Z, qui sont financées par le patronat, et ben il faut réussir en face de ça à avoir une crédibilité à donner aux idées qui ne sont pas néolibérales et à pouvoir les faire connaître un maximum. Donc c'était un peu ça le cas de cette note, c'est de dire voilà, le Parti Socialiste est arrivé au pouvoir, il l'a fait avec une campagne économique qui n'était pas une campagne économique de gauche, et il faut montrer dans un livre qu'on peut faire autre chose que ce que propose économiquement le Parti Socialiste. Parce qu'aujourd'hui on est à un stade encore supérieur, on entendait parler dans le petit extrait des années 90, où on a vraiment cette pensée unique très forte qui amène en contrepoids après au mouvement altermondialiste, etc., qui ont lutté contre ça. Mais la situation actuelle, elle est encore pire. C'est-à-dire que les idées néolibérales triomphent complètement dans la gauche de gouvernement, ce qui était moins le cas au début des années 90. Donc on a grande difficulté, puisque l'alternative qui est proposée aux citoyens après quelques années d'une droite très très dure, c'est uniquement ce que fait le PS, et qui est encore du néolibéralisme. Donc cette pensée unique est très forte aujourd'hui, et le livre dont on pourra parler un petit peu après essaye d'être un point d'appui pour montrer qu'on peut faire autre chose et être crédible dans cette alternative.
Et est-ce que ce débat résonne alors pour quelqu'un qui a interrogé, on a entendu la Suzanne George qui réfléchissait sur la place du libéralisme aujourd'hui, est-ce que ça résonne pour vous, Jérémy Forny?
Les sensibilités qui sont présentes dans le film embrassent un spectre beaucoup plus large que simplement l'altermondialisme ou la lutte contre le néolibéralisme, puisqu'il y a des gens de gauche et des gens qui... Il y a Yolaine Jospin qui est présent dans le film, qui assume un certain nombre menés par son gouvernement et bien là. Alors, même si j'entends l'aspect néolibérales, des politiques menées par exemple Gerhard Schröder en Allemagne, ou par d'autres gouvernements de gauche dans les années 90, je crois qu'aujourd'hui, mine de rien, la lutte contre le libéralisme a essaimé bien au-delà du champ restreint des syndicats ou des mouvements altermondialistes.
C'est-à-dire qu'il a touché, compris, enfin c'est un petit peu ce que disait Guillaume Etiévant, c'est un peu la même idée, qu'il a touché, compris la gauche de gouvernement, c'est ça?
Oui, je crois, quand on entend aujourd'hui le gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui reçoit des gens qui ont signé l'appel Roosevelt 2012, par exemple, on se rend compte que, en tout cas, peut-être cosmétiquement, il y a quand même des idées qui, il y a 10 ans, étaient considérées comme extrêmes, ou en tout cas rentrent dans le jeu politique, et quand, même si on peut considérer que c'est pas suffisant, quelqu'un comme le président François Hollande nous dit qu'il va taxer à 75% les revenus au-dessus d'un million d'euros, voilà, il faut se rendre compte que ça a un sens et que ça veut dire quelque chose sur la manière dont le PS et les gens qui sont en charge du programme économique du PS ont entendu un certain nombre de revendications qui étaient celles des mouvements altermondialistes.
Justement, on va écouter un deuxième extrait, un peu dans le même ordre d'idée, sur la crise de la gauche et notamment la question sociale qui est un peu mise de côté et puis le côté gestionnaire qu'on a pu reprocher au gouvernement de gauche.
C'était affreux. La légitimité de la gauche, c'est pas l'État. Bien sûr, c'est la construction d'un intérêt général, mais c'est la construction d'un intérêt général à partir de l'intérêt des plus opprimés, des plus exploités. C'est là qu'est la légitimité. Pourquoi la gauche est orpheline aussi de cela en termes d'abstention, en termes de recrutement des militants? C'est qu'elle a oublié sa légitimité initiale, qui est la question sociale.
Les années Jospin ont été dans la continuité des années Mitterrand. Hein, on n'a pas de rupture. Bon, il y a des choses qui se jouent un peu différemment, les 35 heures. Bon, mais on est quand même dans la même continuité, qui est celle d'une gauche qui, à partir de 1983, décide que son rôle premier, c'est la gestion du système tel qu'il est. On l'aménage, on essaye de saupoudrer des mesures qui sont censées être plus favorables aux travailleurs. On a pu voir sur les dossiers comme celui des chômeurs que c'était pas si simple, hein, et que souvent le gouvernement de gauche n'acceptait pas d'accéder à des mesures pourtant assez élémentaires. Hein, je pense au mouvement de chômeurs qui demandaient un minimum pour vivre, tout simplement, pas plus que ça, qui n'a pas été possible d'obtenir malgré les mouvements de la part du gouvernement Jospin. Mais le plus important, c'est le fait qu'on est dans une gauche qui est avant tout une gauche gestionnaire.
C'est la déviation totale du socialisme qui, finalement, est devenu un gestionnaire du néolibéralisme. Dans les faits, si on voit ce qui s'est passé en Angleterre ou en France ou en Belgique ou ailleurs, le moment est venu de redéfinir qu'est-ce que c'est que le socialisme. Entre une position critique qui essaie de comprendre ce que c'est qu'un projet socialiste et le fait de s'aligner pratiquement sur des positions néolibérales d'un point de vue économique, eh bien, il y a là une énorme distance.
Dans le message de la gauche et dans la façon dont elle est attendue par ceux dont la vie est la plus difficile, il y a aussi le désir d'une transformation ou l'attente d'une transformation. Alors, on a fait des pas en avant, aussi bien sur le plan social, les 35 heures, que sur le plan sociétal, avec la parité, avec le Pax. Donc, on n'a pas été immobile. Nous n'avons pas été que des gestionnaires. Mais la faculté à transformer, elle est relative, d'abord. Cette dimension de la transformation ou cette dimension du projet utopique était plus difficile à incarner.
Vous les aurez reconnus dans l'ordre. Vous aviez Edoui Plenel, Christophe Aguiton, François Houtard et le dernier, je vous laisse deviner.
Évidemment, Lionel Jospin, on l'a tous reconnu. On voit bien là le débat, il est clairement exprimé par Lionel Jospin. Est-ce que la gauche aujourd'hui a les capacités de transformer la société? C'est ce qui est discuté dans cette note. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on va revenir après très largement avec Guillaume Etiévant sur cette question, qui est au centre de la note de la Fondation Copernic. C'est quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre dont dispose la gauche aujourd'hui au gouvernement, pour véritablement apporter un projet de transformation sociale? Est-ce que ces marges existent et dans de quelle manière on peut les utiliser? Quelques mots là-dessus, Jérémy Forny?
Écoutez, mon sentiment, c'est quand même que, en tout cas dans le film et dans l'interview qu'on a réalisé avec Jospin, il y avait cette, au moins ce constat qui était fait, en disant on n'a pas été capable de...
C'est vrai.
Et ça, je trouve que reconnaître ça, alors peut-être avec retard, pour quelqu'un qui a perdu la présidentielle, qui a incarné les années 97-2002, c'est déjà un pas en avant. Aujourd'hui, de toute façon, la situation est tout autre. On se trouve face à une crise économique systémique qui met en place dans des États comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Espagne, des politiques de rigueur, ou qui fait mettre en place des politiques de rigueur qui sont inacceptables pour les peuples. Et aujourd'hui, je crois que les solutions d'hier ne sont plus acceptables. Et la gauche qui a désormais tous les pouvoirs en France doit se rendre compte de cela et faire des constats qui s'imposent sur tous ces sujets.
Oui, je crois que Guillaume Etiévant le dira certainement mieux que moi, mais tout le projet de cette note, c'est bien effectivement de montrer qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est véritablement un défi. Hein. On a soit la possibilité de dépasser politique libérale qui a été menée par la droite d'un côté et social-libérale qui a pu être menée antérieurement par la gauche et qui certainement sera menée par le gouvernement de François Hollande dans les mois et dans les années à venir. Soit on arrive à dépasser ce cap et véritablement à donner un nouvel espoir à ceux qui aujourd'hui en ont besoin. Soit malheureusement, une situation un peu compliquée où on a le Front National en embuscade. On a bien vu aujourd'hui que, lors des dernières élections, le Front National a tout de même de nouveau fait des scores absolument, absolument importants et que, l'enjeu aujourd'hui est tout à fait... Il est économique pour les rédacteurs de la note sur aujourd'hui quelle politique mener en matière économique. On va maintenant passer assez rapidement donner la parole plus largement à Guillaume. Mais on voit bien que derrière cette politique économique, il y a évidemment un enjeu politique tout à fait important. Guillaume, quelques réactions ?
Oui, j'ai l'impression, en entendant donc le réalisateur, qui considère qu'il y aurait une évolution qui ferait qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste se rendrait compte de certaines erreurs du passé, du fait qu'ils ont trop géré le capitalisme et qu'ils n'ont pas essayé suffisamment de transformer les choses, et que là, on aurait un gouvernement et François Hollande qui mènerait davantage une politique de gauche. Moi, je pense que... Enfin, je suis en désaccord total avec ce constat. C'est-à-dire que le programme du Parti Socialiste de cette année était le programme le plus à droite qu'ait pu faire le Parti Socialiste depuis son existence. C'est très clair. Et certes, il y a quelques mesures cosmétiques. Vous employez vous-même le terme. Effectivement, dire qu'au-dessus d'1 million d'euros, on va taxer très fortement les très riches, médiatiquement, c'est fort. Sauf que quand on regarde la réforme dans le détail, on voit qu'il n'y a pas une réforme du barème d'imposition. Et donc, en fait, on touche fort quelques très rares, très, très riches. Mais par contre, tous les autres qui sont en dessous d'1 million, mais qui gagnent quand même beaucoup d'argent, eh ben, ils paieront pas plus d'impôts qu'avant. Et finalement, on garde en gros le barème qu'a mis en place la droite et qui est pas du tout un barème progressif et défenseur de l'intérêt général. Bon. Je prends uniquement cet exemple-là, mais quand on voit là cette semaine que finalement le Parti Socialiste se félicite de la défaite de Syriza en Grèce, on voit bien qu'il y a un clivage très fort entre toute une partie de la gauche, qu'on peut appeler l'autre gauche, qu'on peut appeler la gauche radicale, qu'on peut appeler la vraie gauche, et puis le Parti Socialiste, qui n'est pas uniquement un parti gestionnaire, qui est un parti qui initie des politiques néolibérales, qui refuse de désobéir aux traités européens, et qui donc reste dans un cadre de fait néolibéral, dans lequel, même s'il voulait faire des choses, s'il n'avait pas en place des réelles mesures de rupture, avec un vrai courage politique, même s'il en avait l'envie, il ne pourrait pas mener des vraies mesures de gauche. Donc ce qu'on veut montrer à travers ce livre, avec différents économistes, dans un cercle assez large des différents partis politiques, c'est-à-dire ça va des Verts au NPA, en passant par le Front de Gauche, en passant par des économistes non encartés mais militants politiques, et bien essayer de montrer que voilà, nous, on a réussi à trouver un consensus, au moins entre nous, entre ces différentes forces, sur quelques grandes réformes économiques à mener d'urgence et des réformes de long terme pour démontrer qu'on peut faire autre chose que ce que fait le Parti Socialiste aujourd'hui, et que ce que fait le Parti Socialiste aujourd'hui, ça risque vraiment d'aggraver la crise, parce qu'il faut rompre très vite avec ce système, sinon on va arriver d'abord à ce que subit aujourd'hui la Grèce, et puis on aura encore une montée de l'extrême droite, de la droite radicale. Donc c'est urgent de changer les choses, et honnêtement, les écrans de fumée qu'a créé le PS pendant la campagne, c'est très néfaste pour la suite des choses cette année.
On va revenir sur les questions concrètes hein, qui sont posées dans la note, mais c'est vrai que ce que vient de noter Guillaume est important. Dans cette note, l'intérêt évidemment, c'est d'avoir réuni des économistes de positions relativement larges, et pour reprendre un peu le débat sur quelle politique a pu mener la gauche au cours des années Jospin et quelles seront les politiques qui pourront être menées dans les années à venir. Il est intéressant de noter que par exemple Jacques Rigaudia est un des rédacteurs de la note et était conseiller social du Premier ministre lorsque Jospin était au gouvernement. Donc on voit bien qu'on a là une large palette de gens qui aujourd'hui s'interrogent effectivement sur quelle politique en matière économique doit-on mener, mais on va y toucher. On vous redonne la parole.
Oui. Ben, écoutez, moi, j'émettais un espoir ou une espérance vis-à-vis de la politique qui serait menée dans les 5 années qui viennent. Mm-hmm. Pour l'instant, on ne peut pas juger sur les actes, puisque le gouvernement vient d'être nommé, l'Assemblée, elle aussi. Et donc, moi, j'émettais ce sentiment en disant, j'ai l'impression que une partie de la gauche et une partie du Parti Socialiste a compris que les politiques néolibérales qui avaient été menées auparavant n'étaient plus acceptables pour une grande majorité de la population. Et je pense que c'est l'enjeu des luttes sociales, c'est l'enjeu des corps intermédiaires qui avait été un des sujets qui a cristallisé cette campagne, de réagir et de créer un rapport de force qui permettront à la lutte justement à ces idées qui permettraient
de rupture
vis-à-vis de l'ordre établi, qui permettront peut-être à un gouvernement de gauche
d'aller plus loin que ce qu'il a pu faire jusqu'à
proposer une vraie alternative. Voilà. Moi je suis dans l'espérance, et ce film il traduit cette espérance. En interrogeant des gens d'un certain âge, on se rend compte que l'énergie qu'ils déploient, les concepts qu'ils mettent en place tout au long de ce documentaire sont des concepts d'espérance et d'utopie. C'est toute la dernière partie du film.
Alors voilà. on va y revenir après, justement. On va faire une petite pause avant d'attaquer tout de suite cette dernière partie du film, la question des utopies. Et puis, on va faire une petite pause dans la discussion, mais on attaquera aussi plus fortement la question des propositions politiques alternatives. Avant cela, une petite pause musicale, donc, qui reste dans le sujet, puisqu'on parle de Pépette. C'est la chanson de Java.
J'étais encore un enfant quand on s'est rencontré. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien.
C'était donc Pépette de Java. Alors on va tout de suite reprendre sur la question des politiques alternatives, puisque c'est quand même notre grand enjeu de ce soir, avec Guillaume Etiévant. Alors par quoi est-ce que tu voudrais commencer? Quelle politique phare tu voudrais mettre en avant si on commence à parler de quelle politique politique économique possible vraiment de gauche?
C'est difficile de prendre un élément et de le mettre en avant, puisque toute l'idée de ce livre, c'est justement de montrer une dynamique globale qui devrait s'instaurer, et tout se tient. C'est-à-dire qu'on peut pas prendre un élément sorti de l'ensemble. Si je devais prendre un élément qui est pas forcément le plus important, mais qui est un élément très significatif pour expliciter un peu ce que je viens de dire, mais on pourra en prendre beaucoup d'autres, c'est la question de l'augmentation du SMIC. Puisqu'on a vu pendant la campagne électorale que la revendication d'un SMIC à 1 700 euros était jugée peu crédible par toute une partie de l'électorat populaire qui aurait pu en bénéficier immédiatement, et puis après il y aurait eu des conséquences sur l'ensemble de l'échelle des salaires. Donc on voyait que cette mesure, elle était très difficile à faire passer, puisque beaucoup de gens considéraient qu'elle n'était pas crédible, qu'elle était impossible à mettre en place, que les entreprises feraient faillite, etc. Mais parce que ce qu'il considérait pouvait être considéré comme juste à partir du moment où on prend cette réforme d'une manière isolée et qu'on ne dit pas qu'elle est au sein d'un ensemble très important de réformes pour sortir du système actuel. Et forcément, si aujourd'hui, dans l'économie telle qu'elle est, on fait juste un SMIC à 1700 euros et on fait rien d'autre, ça pourrait être très dangereux. Donc je dis ça pour montrer l'intérêt de ce livre, c'est de dire voilà, bon, le SMIC à 1700 euros, c'est une des nombreuses mesures qui sont dans le livre, mais on démontre que dans cette dynamique d'ensemble qu'on veut créer avec une réforme de la fiscalité, avec une réforme du système financier, bon, on reviendra dans le détail après, avec un système bancaire public au service des PME et des TPE pour des vrais projets d'intérêts sociaux et écologiques, on peut tout à fait mettre en œuvre des réformes qui paraissent peu crédibles. Donc c'est ça la difficulté, quand on disait tout à l'heure, on parlait de la pensée unique médiatique, etc., c'est que défendre une réforme comme celle-là, et ben, il faut du temps, il faut expliquer l'ensemble des mesures qu'on veut mettre en place. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans ce court livre, qui est justement un outil pour les mobilisations sociales dont on parlait tout à l'heure. On parlait d'espérance. Et bien, je pense que ça peut être un outil d'espérance pour les gens qui se mobilisent en disant, voilà, on est crédible, on a un certain nombre de mesures, où on sait où on veut aller et on peut le faire. Voilà, donc on a un certain nombre d'économistes à se mobiliser, mais également avec les économistes atterrés et avec plein d'autres, pour démontrer que nous sommes crédibles et qu'il faut arrêter d'écouter tous ces experts télévisés qui racontent à longueur de journée des conneries plus grosses qu'eux.
C'est ce que vous appelez un petit peu dans la note, hein, les marges de manœuvre, regagner des marges de manœuvre pour pouvoir justement mettre en place des mesures telles que celles que tu viens de citer, du SMIC à 1700 euros. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quels sont les grands agrégats économiques, si j'ose dire, qui permettraient justement d'obtenir ces nouvelles marges de manœuvre en vue, d'engager des réformes comme le SMIC par exemple, tel que tu viens de le définir?
Il y a différents éléments à prendre en compte. Il y a une première inégalité qui s'est considérablement accrue ces 30 dernières années. C'est le partage de la valeur ajoutée. Bon, le partage de la valeur ajoutée, c'est un élément.
Explique-nous un petit peu, s'il te plaît.
Si vous voulez, quand une entreprise elle vend un produit, ce produit elle l'a transformé. Si on prend un exemple industriel typique, la différence entre ses coûts d'achat de marchandises et puis le prix de revient du produit, ça va être la valeur ajoutée, puisque c'est la transformation du produit qui est une valeur. Et cette valeur ajoutée, eh bien, elle se partage entre les actionnaires qui ont mis de l'argent au pot pour que l'entreprise puisse avoir les fonds suffisants pour commencer à travailler, les impôts de l'État, les différents investissements que va faire l'entreprise, et puis les salaires qui permettent de financer la masse salariale qui a créé cette richesse, puisque la richesse, elle est créée par les salariés, elle n'est pas créée par les actionnaires. Et donc, on a un partage, et on a un partage qui évolue considérablement dans le temps, puisque si on prend la période actuelle par rapport à 1983, on a perdu en gros 95 milliards d'euros si on prend au niveau national, puisque la somme de la valeur ajoutée dans chaque entreprise, c'est ce qu'on appelle le PIB. Et donc la part des salaires dans cette valeur ajoutée, on a perdu 95 milliards à peu près. Donc ça, c'est une...
On dit globalement qu'il y a 10 points de PIB. Hein,
voilà, c'est pas... 10 points.
Ah, voilà, on
c'est
a 10 points de PIB qui sont passés du travail vers le capital.
Voilà, c'est ces 10 points-là. Donc ça représente une somme vraiment importante et qui a été dangereuse pour l'économie, puisque l'argent qui allait vers les salaires et qui pouvait être réinjecté immédiatement dans l'économie par la consommation, cet argent, il a été pris par les actionnaires. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent qui a été dans les investissements, puisqu'on voit que les niveaux d'investissement des entreprises n'ont pas progressé. Donc cette manne financière, elle a été remplir les poches des actionnaires, et donc elle a alimenté la spéculation. Donc elle a contribué à la déstabilisation du système économique. Donc là, on voit très bien que ce partage de la valeur ajoutée en défaveur des salariés, ça a un impact à la fois défavorables pour les gens au jour le jour qui ont moins de revenus, et puis ça a un impact défavorable au niveau macroéconomique. Donc encore une fois, tout est lié. Donc si on se bat pour la hausse des salaires, si on fait un blocage, on pourrait faire un plafond de distribution de dividendes, un plafond de rentabilité actionnariale, si on limite comme ça la distribution de dividendes, et qu'on augmente en parallèle les salaires, eh bien on va permettre petit à petit, hein, et le SMIC à 1700 euros aussi, ça rentrait dans cette dynamique-là, on va permettre petit à petit aux salaires d'avoir une plus grande part dans la valeur ajoutée, ce qui sera bénéfique pour l'ensemble de la population. Donc ça, c'est une première marge de manœuvre, hein, c'est-à-dire que la hausse des salaires, c'est un vrai bénéfique, c'est vraiment très bénéfique pour l'économie. Et puis après, il y a beaucoup d'autres éléments. Si on prend la fiscalité, hein, on nous a bassiné pendant toute la campagne sur les difficultés économiques de la France, sur le déficit qui serait trop élevé, etc., etc. Donc c'est tout cet argumentaire de la pensée unique qui a amené notamment à la réforme des retraites sur laquelle le Parti socialiste ne compte pas revenir réellement, par exemple. Eh bien, on voit très bien que le déficit, il a été creusé en grande partie parce qu'il y a eu une diminution des impôts en faveur des plus riches, en faveur des grandes entreprises, donc que ce soit par l'intermédiaire de niches fiscales, hein, si on prend l'ensemble des niches fiscales qui ne bénéficient qu'aux grandes entreprises, hein, donc la niche du bénéfice mondial consolidé, l'intégration fiscale, une des plus connues, c'est la niche Copé, donc c'est la niche sur les plus-values de cession qui fait que quand un groupe vend une de ses filiales, il n'a pas payé d'impôt sur la plus-value qu'il fait sur la cession de sa filiale, par exemple. Hein, donc ça fait perdre à peu près 25 milliards sur 3 ans. Et si on prend l'ensemble de ces niches-là, donc qui ne bénéficient encore une fois qu'aux grandes entreprises, on peut récupérer à peu près 65 milliards d'euros par an. Hein. Donc il faut avoir ces chiffres-là en tête pour avoir comme ça des ordres de grandeur. Donc on a la question des niches fiscales et puis on a la question, par exemple, de l'impôt sur le revenu. Hein. Si on revenait au barème d'impôt sur le revenu tel qu'il était en 99, hein, si on revient quelques années en arrière, et ben on gagnerait 15 milliards d'euros par an. Voilà, c'est 15 milliards d'euros par an qui sont perdus par l'État à cause des différentes réformes d'imposition sur le revenu. Et voilà, et le PS ne propose pas non plus de revenir sur ces...
Et sur les presque 90% d'endettement public aujourd'hui, combien vous estimez la responsabilité de la politique fiscale ?
C'est difficile de donner des proportions comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en
gros, il y a pas mal d'économistes qui ont dit sur le mandat de Sarkozy, il y a à peu près un tiers de l'endettement en plus. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'endettement avant 2007, mais de 2007 à 2012, il y a environ un tiers seulement de l'endettement public qui est lié au bouclier fiscal et aux mesures fiscales de Sarkozy.
Oui, c'est vrai, mais parce que les réformes de l'imposition sur le revenu, par exemple, ou des autres types d'imposition, elles datent de bien avant Sarkozy.
On parlait que des mesures de Sarkozy, voilà. Pas celles d'avant.
Et elles ont été faites en partie par la gauche, avec une diminution, par exemple, sous Strauss-Kahn, une diminution de la taxation des stock-options. Il y a eu toute une politique globale, hein, à partir des années 90, de diminution des impôts des plus riches et des grandes entreprises. Donc on... Aujourd'hui, la charge de la dette, voilà, ces dernières années, c'est entre 40 et 50 milliards. Vous voyez, quand je vous dis une niche fiscale qui profite qu'aux grandes entreprises, c'est déjà 65 milliards par an qu'on perd. Et globalement, si on regarde les rapports de la Cour des comptes, on voit que s'il n'y avait pas eu ces réformes fiscales de ces 10 dernières années, nos comptes seraient à l'équilibre. Et c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas nous les économistes de la gauche radicale.
On va demander à Jérémy Forny de réagir sur ses propos peut-être, mais oui, je voudrais simplement, en gros, ce que vous dites et qui me semble effectivement un élément important de la note, et c'est de dire que finalement, non seulement la politique qui a pu être menée, disons ces 20 dernières années, pour parler rapidement, a été défavorable, disons, aux salariés eux-mêmes, mais je dirais, on est aujourd'hui dans une situation où cette politique économique, cette politique fiscale est défavorable à l'économie elle-même. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, bon, c'est tout ce qu'on a pu avancer sur finalement les rentiers qui s'enrichissent en dormant. Enfin, on a toute cette idée que aujourd'hui la politique qui est menée ne permet pas à l'économie de fonctionner. Et j'en ai pour exemple la dernière publication de l'OCDE. qui est aujourd'hui, pourtant, qui peut être guère accusé de gauchisme en la matière, et qui aujourd'hui explique très clairement que pour l'ensemble des pays de la zone OCDE, là donc on dépasse très largement le cas français, pour l'ensemble des pays de la zone OCDE, eh bien, on a véritablement les inégalités qui ont été mises en place au cours des années 80 et 90 et dernièrement. Eh bien, sont totalement défavorables au développement économique, et l'OCDE elle-même demande effectivement à ce qu'on repasse à des politiques qui soient beaucoup moins inégalitaires et qui permettent, alors là, on ne parle pas à l'OCDE de partage de valeur ajoutée, mais c'est bien la même idée finalement d'essayer de faire que les consommateurs puissent consommer alors qu'aujourd'hui ils sont dans la capacité de consommer. Jérémy Forny?
Oui, exactement. Moi, je ne peux n'être que d'accord avec ce qui a été avancé. En gros, l'augmentation de la dette publique par Nicolas Sarkozy et les gouvernements de droite, c'est plus 612 milliards d'euros, donc 75 euros de cadeaux fiscaux de niche destinés aux plus riches. Simplement, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que les pays dont on parle, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, et encore une fois, je suis pas économiste, donc je sais peut-être pas mes sujets de prédilection, sont dans cette situation, surtout dans le cadre de plans de relance qui font et autorisent les banques privées à prêter à ces États à des taux qui sont rédhibitoires. Voilà dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc en effet, je pense qu'il faut se placer aujourd'hui au niveau européen. Il faut, je ne sais pas s'il faut, mais en tout cas, il serait souhaitable d'arrêter le dumping social entre les différents pays. Moi, je partage ma vie aujourd'hui entre la France et la Belgique, et je me rends compte de ça, des inégalités salariales, des difficultés pour toute une génération d'être engagé à des salaires corrects. J'ai 30 ans, 33 ans. Et je me rends compte que ma génération, et c'était un peu aussi l'essence du projet après
le documentaire,
la
gauche,
vit moins bien, ou en tout cas vit avec beaucoup plus de difficultés dans un contexte beaucoup plus précaire que les générations qui nous ont précédés.
Oui,
et c'est ça la question peut-être qu'il faudrait mettre au cœur de toute politique économique, c'est... quelle va être la situation de ceux qui me suivent, de mes enfants et de mes petits-enfants. Voilà, moi
j'en profite, c'est une transition qui est un peu servie sur un plateau, parce que dans l'ouvrage, il y a aussi toute une partie qui traite de la crise et des politiques alternatives à mettre en place au niveau européen. Alors, je me tourne vers Guillaume Etiévan, qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qu'il aurait fallu faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour faire face à la crise européenne?
C'est une question, c'est une vaste question. Je la démarrerai en rebondissant aussi avec ce qui a été dit précédemment. C'était effectivement tous ces cadeaux qui ont été faits aux plus riches déstabilisent complètement l'économie. Et si on veut sortir par le haut de la crise économique, eh bien, il faut s'attacher à défendre l'intérêt des plus pauvres. Et ça rebondit sur ce que disait Edoui Plenel dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est l'intérêt des opprimés qui est l'intérêt général. Et c'est ça, pour moi, une des définitions du socialisme. Et si on part, justement, de l'ensemble des salariés, si on modifie leurs conditions de travail, si on augmente les salaires, fait des barèmes d'imposition qui soient plus justes, plus progressifs, etc. Donc si on fait toujours démarrer notre analyse de la condition du prolétariat, eh bien on peut avoir un modèle économique qui soit bénéfique pour l'ensemble de la population. Mais pour pouvoir faire ça aujourd'hui, pour pouvoir améliorer la condition de l'ensemble des citoyens sur la question des services publics, sur la question des salaires, etc., eh bien il faut faire des choix important de rupture avec le modèle européen tel qu'il s'est construit en fait depuis le départ, mais avec une accélération vers le néolibéralisme à partir de l'acte unique européen de 86 et à partir de tout ce qui a été mis en place, que ce soit par la droite ou par la gauche, mais en France en tout cas, à partir de ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Et sur les mesures au niveau européen, c'est très compliqué, parce que si on veut appliquer, par exemple, ce qu'on a noté dans notre ouvrage, Il faut dire clairement qu'on désobéira aux directives européennes, puisque les traités européens tels qu'ils sont constitués aujourd'hui ne nous permettent pas de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de gauche. Et donc là, il y a un choix de courage politique à faire.
Tout à fait.
Et c'est ça, aujourd'hui, un des clivages importants qui sépare...
Qui était d'ailleurs au cœur du débat en Grèce.
Complètement. C'est-à-dire que on avait d'un côté Syriza qui disait très clairement nous souhaitons rester dans l'Union européenne, nous souhaitons rester dans l'euro. Par contre, nous voulons modifier le cadre de ces traités pour qu'ils soient davantage guidés vers l'intérêt général et qu'ils puissent du coup davantage permettre une sortie par le haut de la crise. Et puis on avait de l'autre côté à la fois les sociaux-démocrates et puis la droite qui disaient non, nous allons appliquer le mémorandum, etc. Nous allons appliquer à la lettre les traités européens. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on voit le Parti socialiste en France qui se félicite finalement de la victoire de la droite en Grèce. Parce que le clivage aujourd'hui, un des clivages fondamentaux en tout cas, c'est celui-là. C'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'Union européenne ? Parce que si on ne fait pas un choix clair par rapport à ça, on brasse du vent. On ne peut rien faire puisque les traités ne nous permettent pas de faire la réforme de la finance que l'on propose, de faire cette renationalisation des services publics qui ont été détricotés petit à petit. Et ça ne nous permet pas de faire cette sortie de la crise de la dette dont on parle et dont parlait le réalisateur tout à l'heure. C'est-à-dire, ce que je disais au départ sur cette baisse d'impôts pour les plus riches, un des autres éléments qui déstabilise l'économie, c'est que les différents pays occidentaux, en tout cas les pays d'Europe, puisque c'est pas le cas des États-Unis ou c'est pas le cas de l'Angleterre, mais les pays de l'Union européenne, en tout cas les pays de la zone euro, ont fait le choix de se financer auprès des marchés financiers et non plus auprès de leur banque centrale. Donc du coup, on a une diminution d'impôts des plus riches. Cet impôt qui allait être directement dans la caisse de l'État, eh bien l'État, pour avoir la même manne financière, il a dû l'emprunter à ses riches à des taux très élevés. Donc on a en fait un vrai transfert d'argent, c'est-à-dire que l'État, pour avoir la même somme, il est obligé de s'endetter auprès des riches et des marchés financiers, alors qu'avant, il suffisait de lever l'impôt. Donc là, on a un vrai racket qui est fait sur le dos des citoyens, puisque c'est l'argent qu'a l'État et qu'il dépense chaque année pour rembourser les marchés financiers, il n'a aucun intérêt économique.
Et dans la note, vous prononcez hein, pour un service public financier, c'est en partie justement pour répondre à ces questions là.
Alors, c'est en partie pour répondre à ces questions, mais c'est pas le seul élément. C'est-à-dire qu'il faut d'une part avoir un secteur public financier d'investissement guidé vers des projets réellement productifs avec des réelles normes sociales, écologiques, etc. Donc, pour qu'il y ait vraiment toute une dynamique qui soit créée par l'État à travers ses banques publiques. Donc il est très important de faire un pôle public financier
qui redonne à l'État finalement les marges de manœuvre dont il a besoin.
Oui, c'est-à-dire qu'il pourrait être fait par exemple à partir de la Banque Postale, de la Caisse des dépôts, etc., élargi par un certain nombre de nationalisations. Alors là-dessus, il y a des débats entre les économistes de gauche sur le périmètre des nationalisations. Donc ça, c'est important pour relancer l'économie d'une autre manière. Mais il y a un autre sujet fondamental, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la Banque Centrale Européenne se réforme pour qu'elle puisse prêter directement aux États et qu'elle n'ait pas cette situation absurde dans laquelle on est depuis la création de l'euro, qui explique en grande partie les difficultés de dette publique en Grèce, hein, qui est que la Banque Centrale Européenne prête aux banques privées à des taux très faibles, et ensuite les banques privées prêtent à des taux très élevés aux États qui, eux, ne peuvent pas emprunter directement auprès de la BCE, puisque c'est contraire aux traités européens. Donc ce qu'il faut, c'est modifier de manière très importante les statuts de la BCE pour qu'elle soit dépendante des pouvoirs publics, pour qu'elle n'ait plus comme seul axe de mise en œuvre la lutte contre l'inflation et pour qu'elle puisse prêter directement aux États. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour arriver à ça, et c'est un autre point de clivage, c'est-à-dire que là-dessus, on pourrait être d'accord, même le Parti Socialiste peut être d'accord là-dessus, sur le fait qu'il faut que la BCE prête directement aux États.
Ça exige un vrai rapport de force, quoi.
Mais il faut mener un rapport de force, exactement. Et pour mener ce rapport de force, eh bien, il faut dire très clairement, nous désobéirons aux traités européens pour que, petit à petit, la BCE soit obligée de se dire, bon, on tient à cette unité monétaire au niveau européen, on ne veut pas que la zone euro explose, et donc on va donner un petit peu, aller un petit peu davantage dans le sens de ce que peut revendiquer la Grèce, de ce qu'on pourrait revendiquer en France, en tout cas de ce que pourraient revendiquer des vrais gouvernements de gauche s'ils étaient au pouvoir, mais en tout cas ce que revendiquent les différents partis de la gauche radicale dans toute l'Europe. Donc s'il y avait un vrai gouvernement de gauche aujourd'hui, ce que pourrait faire le PS, et c'est le but de la note, c'est-à-dire ce que pourrait faire le PS s'il voulait le faire, il pourrait dire par exemple, on essaye de négocier au maximum pour que la BCE change ses statuts. Aujourd'hui, on voit que le PS n'essaye même pas de le faire, qui font même un retour en arrière sur la revendication des eurobonds. Alors les eurobonds, je ne pourrais pas être trop technique, mais les eurobonds, simplement une mutualisation de la dette au niveau européen qui permet en fait qu'il y ait des obligations qui soient européennes et qui ne soient pas uniquement indexées par État. Donc du coup, forcément, les taux d'intérêt, par exemple, très forts de la Grèce seraient diminués par les taux d'intérêt plus bas qu'à l'Allemagne. Et du coup, au niveau européen, on aurait des taux d'intérêt avec une moyenne plus faible. C'est pour ça que l'Allemagne refuse, parce qu'elle ne veut pas payer davantage. Donc ce serait une solidarité européenne qui peut paraître a priori bénéfique. Sauf que ces taux d'intérêt, ce serait toujours pour financer les marchés financiers. C'est-à-dire que les prêteurs, ce serait toujours les marchés financiers. Et donc pour sortir de ça, il faut réformer la BCE. Et pour le faire, et je termine là-dessus, si on n'arrivait pas à convaincre la Banque Centrale Européenne d'aller là-dessus, ben c'est de dire on désobéit et on permet à la Banque de France, par exemple, de prêter directement à l'État français, c'est-à-dire de faire la création monétaire au niveau national, en espérant être ainsi suivi après par les plus petits pays qui pourraient mener à la même pratique de désobéissance pour créer un rapport de force au niveau européen.
Au-delà de ces mesures concrètes, et pour garder aussi un peu d'espoir, on va écouter un dernier extrait du documentaire Après la gauche, réalisé par Jérémy Forni, qui traite des utopies.
On va entendre dans l'ordre Albert Jacquard, Antonio Negri et Lionel Jospin.
Nous devons imaginer un monde qui n'a encore pas eu lieu. Par définition, c'est l'utopie. L'utopie, c'est un nom qu'avait inventé un Anglais pour imaginer une société sur une île, justement, sur une société aussi parfaite que possible. Bien, ils ne disent pas que c'était impossible à réaliser, mais que c'était nouveau à créer. Eh bien, nous sommes là, prêts à créer un monde nouveau.
L'impossible est possible quand on s'engage vraiment, véritablement. L'utopie, certaines fois, c'est comme la substitution d'un horizon religieux. Quelque chose qui est au-delà, qu'il faut rejoindre. Non. L'utopie, si vous voulez maintenir le terme, il faut la faire vivre. L'utopie, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. L'utopie, c'est pas quelque chose qu'on puisse renvoyer dans le temps, mais c'est quelque chose qu'il faut actualiser.
Je crois qu'il y a un certain nombre de tâches qui, si on en mesure l'ampleur, sont quasiment de caractère utopique. Mais par rapport à des périodes antérieures, et notamment par rapport à ce qu'ont pu être les utopistes, les socialistes utopiques en France ou en Angleterre à l'aube de la révolution industrielle, on se rend compte en même temps que ces tâches utopiques sont des tâches absolument indispensables, parce que nous vivons maintenant dans un monde fini, dans un monde saturé où l'explosion démographique va se poursuivre, et dans un monde menacé à la fois pour la nature et pour l'équilibre planétaire lui-même.
Jérémy Forni, écoutez cet extrait, ouais, sur les utopies, c'était aussi l'objet du documentaire. C'était pas seulement de faire un diagnostic sur la disparition de la gauche, mais c'était aussi donner quelques motifs d'espoir.
Exactement, c'était le cœur du projet. Et c'est un peu, au vu de ce débat qu'on vient d'avoir ce soir, un peu le sens aussi de mes propos. C'est remettre le politique au cœur de l'organisation sociale. Et quand Guillaume parle de la volonté politique, quand il dit qu'il va falloir imposer une vraie politique de gauche, il faut donner à ceux qu'on a élus de vraies possibilités et de vraies marges de manœuvre avec cette espérance que la rupture pourra être incarnée par ceux qui nous gouvernent. Peut-être que c'est un peu le sens du titre du film Après la gauche, c'est pour moi cela veut dire la gauche d'après, la gauche qui doit être réinventée. Et ça a été, pendant le tournage de ce film, vraiment le cœur du projet, c'était d'entendre ces personnalités de gauche, de la gauche au sens, encore une fois, large, nous raconter quelles pouvaient être leurs espérances, qu'est-ce qui pouvait être mis en place et qu'est-ce qu'elles allaient laisser aux générations qui viendraient après elles. Voilà, donc ça a été vraiment le cœur de ce projet et le cœur de ce film. Et comme je le disais tout à l'heure, on a voulu aussi embrasser toutes les sensibilités. Lionel Jospin, qui intervient à la fin du film, nous dit en somme la même chose que quelqu'un comme Tony Negri ou Suzanne George. C'est assez troublant pour des gens comme moi qui pouvaient condamner à un certain moment le Parti Socialiste ou qui pouvaient être très critiques vis-à-vis des politiques qui étaient menées lors de la gauche pluriale. Aujourd'hui, on se rend compte que des personnalités comme celle de l'ancien Premier ministre se rendent compte, encore une fois, que l'utopie doit être placée au centre de l'échiquier et qu'il y a encore des possibilités d'espérer.
On va demander à Guillaume peut-être le mot de la fin, là, puisque malheureusement ce débat va se terminer. Est-ce qu'il y a une utopie du côté économique ou qu'est-ce qu'on peut...
Moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec ce terme d'utopie, puisque je considère que les réformes que nous proposons et que défendent les différentes mobilisations sociales, c'est des réformes d'urgence, c'est des réformes crédibles. Et je pense que si on les fait pas, eh bien, on court au désastre. Et le désastre, on le voit autour de nous tous les jours avec une augmentation terrible de la précarité, avec des salaires qui sont gelés, avec des pays comme la Grèce qui atteignent des niveaux de pauvreté considérables. Et quand après, nous, on nous dit, et effectivement, c'est ce qu'ils disent au PS, c'est ce que peut dire Lionel Jospin, oui, il y a l'utopie. Nous n'avons rien d'utopique. Ce que nous proposons, c'est des réformes très claires, assez simples à mettre en œuvre, tout simplement pour que les choses aillent un petit peu mieux, que ce soit un premier pas pour après envisager d'autres choses peut-être plus révolutionnaires. Pour finir, je dirais que le socialisme, c'est la socialisation des moyens de production et qu'on peut garder cette définition-là en tête en disant c'est ça le chemin, c'est de sortir complètement du capitalisme. Mais aujourd'hui, les réformes que porte la gauche radicale, ce sont simplement des réformes d'urgence indispensables à prendre, tout simplement pour la survie de nos peuples européens et mondiaux.
On va se quitter sur cette invitation à l'action. Je remercie nos deux invités d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et je rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de nos émissions sur le site de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org, et sur le site de Mode d'Emploi. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain.
On se retrouvera le mois prochain, effectivement, en différé, et on se retrouvera en septembre, en direct, pour une nouvelle année de la Fondation.
Et de nouvelles aventures.
De nouvelles voies, peut-être.
Et de nouvelles utopies. On se quitte avec un clin d'œil sur les luttes québécoises, justement, qui sont en pleine proposition d'utopie, avec Loco Locas, Libérez-nous des libéraux.
Autour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Jean Charest.
Merci, mon Pit. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts.
Prêt, prêt, la charrue, charrée, acharnée, charcute en char, puis la charpente de la maison qu'on a mis 40 ans à bâtir.
C'est pour que militer pour Amir Kadir. Maintenant, la table est mise pour 4 ans à bâtir. À pâlir, à vue d'œil, à Uri, à la vue, la banque.